Les oreilles, ça, c'était mieux avant. Mais en tout cas, voilà. En tout cas,
peut-être qu'une prochaine session aussi à Fabien. Là, par contre,
je prendrai la suite sur le 2010-2015.
Laisser les singles sans problème. Il est 20h, on va voir se quitter. On fait des gros bisous.
On vous dit à dans deux semaines.
Dans deux semaines, dans 15 jours.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao. Bye bye.
Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Nous sommes le 23 septembre 2025, il est 20h03 et on vous retrouve une nouvelle fois un mardi pour vous parler de sport, d'actualité locale, nationale et internationale. Au programme, on a pas mal de choses de prévues, des actualités locales, bien sûr, j'en ai parlé, le SCO, le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, la Ligue 1, de l'athlétisme, du volet et bien d'autres, voilà, en termes de sujets. Pour m'accompagner ce soir, pas mal de monde autour de cette table. Je vais commencer par celui sans qui cette émission ne serait pas possible, l'homme de la technique, l'homme qui manie manifestement bien cette petite console. Faustin, bonsoir, comment vas-tu?
Bon, tout ça, salut Mathéo, salut tout le monde, ça va évidemment très bien. Voilà, je t'ai délégué un peu l'animation pour ce soir.
Ça fait plaisir, je prends avec plaisir.
Bah tant mieux. Et ouais, pour moi, FIFA est sorti en plus, donc
là.
Évidemment des grandes occupations cette semaine.
C'est quoi ton plus gros pack pour l'instant?
Pour l'instant, j'ai un Alvarez 87 et une Paris Guerrero 89.
Beau gosse.
Moi, je note surtout qu'il joue à des vieux jeux. FIFA, ouais, ça n'existe plus.
C'est UFC maintenant, autant pour moi. Bon,
on va retenir quand même. Je suis d'accord, FIFA, ça reste FIFA. Je sais qu'en plus, tu dis que ça va, mais tu as dû forcément être un petit peu contrarié par le classement au Ballon d'Or de Pedri. On va y revenir. Ouais, tout à l'heure, je te comprends. Il y a quelqu'un d'autre qui a été touché par ce classement. Forcément, il a même mis le maillot pour narguer les organisateurs du Ballon d'Or ce soir. Paulin, bonsoir. Comment vas-tu?
Bah, ça va. Je ne sais pas du coup parce que t'as très bien résumé ma situation. D'ailleurs, derrière mon maillot, c'est clairement écrit Pedri. Hein. C'est clairement,
ça qui est fou, quand même.
C'est clairement un hommage pour lui. Évidemment qu'on est complètement outré de sa place au Ballon d'Or, mais ça, comme tu l'as dit, on en reparlera, mais sinon, non, ça va très bien. Encore un très beau week-end de sport, on a adoré.
Content de l'apprendre. À ta droite, on a Paul également. Bonsoir Paul, comment vas-tu?
Bonsoir, je vais très bien ce soir. Très content pour ce week-end de sport qu'on a eu et très heureux d'être là ce soir.
Pareil, t'as pu suivre un petit peu la cérémonie du Ballon d'Or.
Ouais.
T'as apprécié le classement.
J'ai apprécié le classement. Enfin, même s'il y a quelques problèmes, je trouve aussi, mais on en reparlera.
On en reparlera tout à l'heure. À ma gauche, Cédric. Cédric, comment vas-tu? Bonsoir. J'ai oublié le bonsoir, la formule de politesse. C'était
Eric. Déjà, ouais, bravo. Plus de respect.
Excuse-moi.
Bah écoute, ça, super bien. Ça fait plaisir de revenir. Nouvelle saison. On y compte plus maintenant.
Bah c'est vrai que ça fait la combienième pour toi, là? 8, 9?
Ouais, parce que comme il y a eu une saison d'arrêt, on doit être à la 10e ou 11e. Enfin, on va entamer la 11e bientôt. Donc ouais, oh, mais oh, ça fait plaisir de revenir en plus. Pas mal de choses intéressantes en ce moment dans le sport en juin. Donc, c'est toujours cool d'être là.
Et justement, le sport méno-ligérien, on va en parler tout de suite avec les actualités locales, à commencer donc par Cholet Basket, qui a conclu sa préparation par une victoire en demi-teinte ce samedi face au CSP Limoges. Devant leur public, les hommes de Fabrice Lefrançois se sont imposés 88-83, mais après avoir longtemps souffert, totalement dépassé en première mi-temps, trop permissif en défense, les Choletais ont encaissé 50 points en 20 minutes, en comptant 14 longueurs de retard à la pause. Mais au retour des vestiaires, le réveil a sonné, un troisième quart-temps maîtrisé, puis une remontée spectaculaire emmenée par Gérald Ayavi et ses coéquipiers. Dans le Money Time, Justice et De Souza ont fait la différence malgré les 23 points de Nicolas Lang côté Limougeaux. Avec ce succès, Cholet boucle sa pré-saison sur 7 victoires en 8 matchs, de quoi nourrir la confiance. Rendez-vous désormais samedi prochain pour le grand départ du championnat de Betclic Elite avec la réception de Strasbourg à 18h10. On descend en National 1 masculine désormais avec l'étoile Angers Basket qui a raté sa rentrée à Jambon. Les hommes de John Delay se sont inclinés 96-84 face à Vitré, plombé par une défense totalement absente. Le match a surtout été marqué par la performance irréelle de Jules Guibet, auteur de 41 points à lui tout seul. Intenable, l'arrière breton a fait basculer la rencontre, profitant du manque de densité angevine sous le cercle et des fautes rapides de certains. Malgré les efforts du capitaine Baptiste Auger et ses 21 points et des quelques éclairs de Serrano et Arat, le AB n'a pas réussi à imposer son identité défensive. Un constat dur pour le coach John Delay. Je cite, on a oublié notre ADN, c'est honteux, déclarait-il dans les colonnes du Courrier de l'Ouest. On reste en National 1, mais cette fois-ci du côté des féminines, et les clubs du département ont connu des débuts eux aussi contrastés. À Paris, le SLB Saumur, promu tardivement à ce niveau, n'a rien pu faire face au Stade Français, trop léger physiquement et en manque de repères collectifs. Le groupe de Nadir Naïdji a sombré d'entrée, encaissant 29-10 dans le premier quart-temps, pour finalement s'incliner lourdement 96-73. À Saint-Léger-de-Linière, c'était un soir de grande première historique pour l'Ambois Martin Basket, dans une salle de la Coudre bouillante, pardon. Les joueuses de Thomas Belot ont rivalisé, je vais y arriver, hein, décidément, par séquence avec
c'est l'émotion, ça.
Exactement. Une grande première, ça, c'est toujours, on est toujours émotif. Face à ça, donc Sceaux, référence de la division, revenu à moins 5 en début du dernier quart-temps. Elles ont fini par céder, battu 79-64. Rugby maintenant avec une déception énorme pour le SCO d'Angers. En déplacement chez le promu Orsay, les Angevins se sont inclinés lourdement 47-26. Pourtant, tout avait bien commencé avec un doublé du talonneur Glonty et un petit avantage à la pause 16-12. Mais au retour des vestiaires, les Franciliens ont changé de rythme, profitant des largesses défensives du SCO pour inscrire 5 essais au total. 3 en discipline est trop imprécis. Les joueurs angevins n'ont pas su réagir malgré un dernier essai de Maquigno en fin de partie. C'est déjà la deuxième défaite en deux journées, la troisième si l'on compte la préparation. Prochain rendez-vous capital pour relancer la machine le 5 octobre à domicile face à l'AS Chablis. En athlétisme à Tokyo, l'équipe de France féminine du relais 4x400 mètres a livré une course courageuse mais insuffisante face au gratin mondial avec dans ses rangs l'angevine Amandine Brossier du SCO Angers Athlée et la choletaise Louise Maraval. Les Bleus ont pris la 7e place de la finale des championnats du monde, donc sous une pluie battante et depuis le difficile couloir 2, Alex Deo, Fanny Pelletier, Louise Maraval et enfin Amandine Brossier ont donc tout donné, bouclant leur quart de tour en 3-24-08, leur meilleur chrono de la saison. Mais en face, les Américaines ont écrasé la concurrence, établissant un record donc lors de ces mondiaux en 3-16-61. La Jamaïque et les Pays-Bas complètent le podium loin devant. Donc dernière relayeuse comme en série, Brossier a signé le meilleur temps chez les tricolores avec un départ lancé en 49-80. 11, confirmant son rôle de leader malgré une saison plus que compliquée. On rappelle que l'an passé, les Françaises aux Jeux Olympiques avaient été brillantes et avaient su gagner une 5e place. On continue avec un joli renversement de situation au stade Rive du Thouet, mené au score malgré une large domination. Un adversaire réduit à 10 dès la demi-heure de jeu, l'Olympique de Saumur a trouvé les ressources pour s'imposer 3-1 à Grandville samedi soir lors de la 6e journée de National 2. Dominateur mais inefficace en première période, les Saumurois se sont fait surprendre après l'heure de jeu par un but de Rubio. Mais la révolte est venue dans le dernier quart d'heure. Quentin Lecoz, entré en jeu, a signé un doublé express 77e et 83e minute avant que Martin Vigrin ne scelle définitivement la victoire dans le temps additionnel. Un succès qui fait du bien au moral et qui récompense la persévérance des Saumurois dans ce début de saison, eux qui s'éloignent donc de la zone rouge. Réaction attendue, réaction obtenue pour le SCO Handball en déplacement à Besançon, concurrent direct donc pour le maintien. Les Angevins se sont imposés 30-27, signant leur première victoire de la saison. Un succès bâti dès la première période avec un Loïc Spadi infranchissable dans les cages, 13 arrêts en 30 minutes, et Angers vire en tête à la pause 13-11. Cette fois c'est le collectif qui a répondu présent. En seconde mi-temps, Besançon a tenté de revenir mais le SCO n'a pas flanché, a pris ses responsabilités dans le money time. Score final donc 30-27 pour Angers qui lance enfin sa saison et prend l'air avant de recevoir Ivry jeudi prochain. On va passer au SCO désormais, donc le SCO d'Angers en foot qui s'est incliné après deux matchs sans défaite, battu 1-0 à Lyon. Solide défensivement en première mi-temps, les Angevins ont fini par céder à la 65e minute sur un but de l'Américain Tanner Tessman. En attaque, trop peu d'occasions, seulement deux tirs cadrés pour Angers sur l'ensemble du match contre 7 pour l'OL qui a été très dominateur. Pourtant, dans le temps additionnel, Shérif puis Camara ont une belle balle d'égalisation, mais le gardien lyonnais Dominique Greif a sorti deux arrêts spectaculaires. Deuxième défaite de la saison pour Angers qui reste donc en bas de tableau avant de recevoir Brest dimanche prochain. J'ai malgré tout envie de dire moi personnellement qu'il y a beaucoup de positifs qui ressortent de cette rencontre. Paulin, est-ce que toi t'es plutôt satisfait de la performance des Angevins sur cette rencontre face à l'OL?
Moi, pour être honnête, j'ai vraiment apprécié ce que les Angevins ont proposé dans leur registre. Évidemment, de toute façon, on sait que en se déplaçant au Groupama Stadium, ça allait être compliqué. Mais moi, je les ai trouvés plutôt solides, cohérents aussi dans ce qu'ils ont pu proposer. Et honnêtement, ça se joue à rien le fait qu'on reparte pas avec un point de Lyon, parce que il y a l'énorme match, moi je trouve, de Jacques Écommier, et vraiment c'est je trouve que son match est impressionnant dans l'impact qu'il donne, et les occasions aussi qu'on a eues, il les provoque avec un super centre, et au final c'est Machine qui reprend le ballon et qui le met sur le poteau. Je veux dire, il y a c'est vraiment, ça s'est pas joué à grand chose, et au-delà de ça, bah forcément on sait que ça a été compliqué, on a été dominé, il y a eu des occasions du côté de l'OL, mais ça on s'y attendait, mais globalement je les ai trouvés très justes aussi techniquement, essayer de garder le ballon. Alors forcément des fois on se précipitait vers l'avant, ce qui est normal, et j'ai aussi bien aimé ce que apporte Prosper Peter, cette espèce de physique, un peu de bête physique. Il arrive bien à mettre son défenseur dans son dos, à prendre appui pour garder le ballon, et je trouve que d'ailleurs Dujeu le dit aussi, c'est plutôt positif ce qu'il nous montre, et justement avec tout ce qu'on disait avec le remplaçant d'Esteban Le Poll, moi j'apprécie vraiment ce qu'il propose. Il y a des très bonnes choses en tout cas dans cet effectif.
Donc du positif à tous les étages. C'est vrai que tu parlais de Jacques Écommier. En vrai, c'est plutôt révélateur de quelque chose au niveau du SCO. C'est que vraiment, on a réussi à bien bloquer le centre de l'OL. Ça, c'est assez évident. Hein. Le milieu de terrain a très très bien fonctionné, la défense centrale également. Donc ça a déporté le jeu sur le côté. On a vu Adam Karabek très haut, qui couvrait une bonne partie de ce côté droit, mais de manière très haute en longeant la ligne. Donc c'est pareil. Derrière, comment il s'appelle, Eslem Etland Niles, pardon. J'oublie les joueurs de mon OL qui est venu suppléer derrière Karabek, et ça a ouvert des portes aussi offensivement, et du coup on a eu des performances aussi intéressantes d'autres joueurs. Ça a permis notamment à Justin Kalumba, je me retourne vers toi, forcément Faustin, on en parle souvent tous les deux de Kalumba, il t'a fait plaisir son match?
Ouais, carrément, son match, il est en place. Après le peu de temps de jeu qu'il a eu quand même depuis le début de la saison, il a montré qu'il savait faire encore des choses, et que il est remis complètement de sa blessure et qu'il va pouvoir apporter au SCO toute la saison. C'est évidemment un confort dont le SCO avait besoin dans cette profondeur de banc tant recherchée avec le peu de joueurs qui sont arrivés cet été dans le mercato. Donc ouais, ça fait extrêmement de bien de voir qu'on a un Justin Kalumba qui est quasiment au meilleur de son niveau, au meilleur de sa forme pour remplir le terrain du SCO, quoi.
C'est vrai que physiquement il était assez impressionnant, on a eu vraiment une explosivité assez impressionnante. Moi, j'aimerais vous parler de quelqu'un aussi qui du coup a failli marquer en fin de match. C'est Ousmane Camara quand même qui fait là un début de saison assez étonnant, on va dire. On n'attendait pas vraiment ça de lui, qui a longtemps été mis au placard depuis son arrivée du Paris FC. Paul, je me tourne vers toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses toi de son début de saison et encore plus dans cette rencontre où vraiment la défense centrale du SCO avait l'air assez infranchissable.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a l'impression qu'on retrouve un nouveau Camara parce que bah comme tu l'as dit, depuis qu'il est arrivé au SCO, beaucoup mis au placard, il a beaucoup été testé dans des matchs importants, où il nous a peu montré de fiabilité. Et là, cette année, on a l'impression de trouver un patron, un taulier en défense avec le fort. Et je trouve ça quand même assez intéressant, parce que comme on a manqué de joueurs pour cette saison au niveau du recrutement, d'avoir un défenseur central qui était dans notre effectif les autres saisons, de voir qu'il a enfin passé un step, je pense que c'est enfin une saison qui va être référente pour lui et qui va peut-être permettre ensuite de passer à un cap qu'on attend depuis très longtemps, puisque c'était quand même arrivé comme un espoir du Paris FC.
Oui, carrément, on va aussi garder un œil sur le retour d'Emmanuel Bumla aussi, qui va revenir, qui va peut-être essayer de reprendre sa place. On va voir comment ça va se profiler, peut-être ce jeu à trois en défense centrale. On a aussi eu quelque chose d'assez intéressant, je trouve, particulièrement marqué sur cette rencontre, qui a été vraiment une bataille tactique jusqu'à chercher l'ouverture du score, que ce soit pour Lyon, et puis derrière aller enclencher des contre-attaques du côté du SCO, etc. C'est vraiment la lecture du jeu d'Alexandre Dujeu qui a vraiment été, je trouve, assez impressionnante, même sur les rentrées, qui ont vraiment eu un impact sur la rencontre de manière assez réelle. Faustin, est-ce que toi tu as aimé par exemple la rentrée de Sidiki Chérif, forcément, qui a été en tout cas le plus présent sur le terrain des joueurs remplaçants qui sont rentrés?
Ouais, l'entrée de Sidiki Chérif, même depuis le début de la saison, les ajustements faits par Alexandre Dujeu, surtout qu'il a dû grandement revoir son système après le départ d'Esteban Le Poll, c'est vraiment des choses excellentes qu'on peut voir, auxquelles on s'attendait pas forcément. Personnellement, je ne m'attendais pas à avoir joué le SCO à un tel niveau, même si ce n'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste au-delà de mes attentes et au-delà des attentes de pas mal de gens après le départ d'Esteban Le Poll notamment. Donc l'entrée de Sidiki Chérif ici, elle est vraiment bonne, elle est vraiment bien jaugée sur le bon timing et pour le bon joueur. Donc c'est du très bon du jeu, j'ai envie de dire, même si depuis qu'il est arrivé, finalement, on n'est vraiment pas déçu de ses performances et de ses choix tactiques et collectifs.
Non, pas du tout, mais c'est vrai que le SCO a toujours fait des bons choix d'entraîneur, j'ai trouvé quand même sur depuis Moulin, globalement c'est vrai que c'est assez plaisant et du jeu, il arrive à faire quelque chose avec un groupe qui est quand même vachement restreint aussi, donc c'est assez super. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vachement visible sur cette rencontre, c'est la mise en place de ce tandem entre Belgdim et Belkebla qui fonctionne à merveille. C'est vraiment deux joueurs qui se suppléent vraiment très bien. Toi, t'en penses quoi, Paulin, justement, de ce tandem? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire?
De toute façon, on en a déjà parlé sur les émissions d'avant. C'est vrai qu'ils sont assez impressionnants et on a l'impression qu'on a vraiment trouvé notre double pivot qui est de référence, en fait. Et une espèce de sécurité et d'assurance qui nous apporte dans leur jeu et dans leur complémentarité. Et en plus de ça, Belkebla, il a aussi ce leadership dont on a besoin, surtout dans ce 11 de titulaire, du coup, vu qu'Abdelli est relégué sur le banc, en tout cas, il était encore face à Lyon. Donc, moi, je trouve que ce qu'il nous apporte, c'est assez rassurant. Et en plus, Belkedim, j'aime de plus en plus sa capacité aussi à voir le jeu, à être un petit peu, des fois, organisateur, sachant qu'on sait que Louis Mouton, et on l'a vu en plus beaucoup sur cette phase-là, notre 4-2-3-1, entre guillemets, annoncé, se transforme en 4-3-3, et Louis Mouton est beaucoup amené aussi à redescendre un peu plus bas. Mais non, moi, je trouve que c'est prometteur pour la suite. Après, c'est vrai que là, on fait les louanges de notre effectif. On reste sur une défaite 1-0, mais c'est que on jouait contre Lyon, qui est très en forme aussi en ce début de saison. Faudra voir contre les clubs où on peut aller chercher justement des victoires, ce que ça donnera. Mais en tout cas, à un niveau de jeu comme là, ils nous l'ont présenté. Et comme tu le dis, il est très bon choix du jeu. Et encore, on le répète, mais cette force aussi de collectif, et on sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Alors, carrément, ça a été joué aussi peut-être à le départ aussi d'Esteban Le Poll, justement, le fait que tout le monde se dise que le SCO, ça va être compliqué. Il y a une osmose qui se crée dans ce groupe-là.
On va se serrer les coudes et on va y aller ensemble, les gars, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Et même dans ce qu'on voit sur les réseaux, une très bonne entente entre tous les joueurs. Et je pense que, en fin de compte, peut-être que cette saison va mieux se passer, en tout cas, qu'on le pensait. Mais sur le terrain, de ce qu'on peut voir, c'est positif.
On a quelque chose aussi qui est positif, qui le sera sans doute, c'est le retour d'Imad Abdelli, qui a aussi fait une rentrée assez intéressante. Pour le coup, c'est vrai qu'on va peut-être attendre encore trois semaines, peut-être un mois avant de pouvoir peut-être le projeter en tant que titulaire, mais ça fait quand même du bien d'avoir ce joueur créateur, on le répète hein, toutes les semaines, mais quand même il faut le marteler, et là pour le coup il commence à monter en puissance quand même, donc on va voir, ça va vraiment créer un effectif plus compact que prévu, surtout vu l'intérêt qu'on peut porter sur les jeunes au niveau du SCO. On va continuer en Ligue 1 maintenant. On va quitter le stade Raymond Coppa, puisque c'était il y avait d'autres rencontres hein, forcément. Il y en avait 7 autres lors de cette 5e journée de Ligue 1 qui a offert son lot de rebondissements. Donc à la Beaujoire, Nanterrennes se sont quittés dos à dos dans un derby haletant mené donc de 2 buts. Les Canaries ont trouvé les ressources pour revenir et dans ces ultimes secondes avec ce but Kel Arabi a arraché. Donc, pour trouver le 2-2 après un penalty stoppé par Samba, notamment qui allait sceller le score du match. À Brest, la saison est véritablement lancée hein, pour le prochain adversaire du SCO, porté par un Ajorque étincelant, un but et 3 passes décisives et 1 barre. Le Stade brestois s'est imposé 4-1 contre Nice, dominateur mais trop inefficace. Les Aiglons ont été punis, notamment par des nouvelles recrues, Chotard et Labo Lascari. Exactement. Donc, malheureusement, nous connaissons qu'on aurait bien aimé avoir dans nos rangs. Un autre derby et un autre scénario, Lens a brillé contre Lille 3-0, solide collectivement, les hommes de Pierre Sage ont régalé leur public et infligé aux dogs leur première défaite, donc incapables de se relever de leurs occasions manquées du début de match. Strasbourg de son côté est allé chercher 3 points précieux sur le terrain du Paris FC, victoire donc 3-2 malgré une domination francilienne. Le réalisme donc des Alsaciens et l'entrée décisive d'Emmanuel Emega ont permis au Racing de s'installer comme l'une des 4 équipes comptabilisant 12 points avec Lyon, Monaco et Paris. Monaco qui a aussi vécu une soirée pleine de rebondissements, malmenée par Metz, l'AS Monaco s'est réveillé dans les 10 dernières minutes pour s'imposer largement 5-2 avec notamment un doublé forcément d'Ansu Fati qui va faire plaisir à nos Barcelonais autour de cette table pour sceller donc le succès princier. Au Havre, la confrontation contre Lorient s'est soldée par un nul, un partout. Soumaré avait répondu à l'ouverture du score de Tauzin. Mais ni les Havrais ni les Merlus n'ont su forcer la décision. Et puis à la Baie des Champs, Auxerre a réalisé un petit exploit en s'imposant face à Toulouse 1-0, réduit à 10. Donc la GIA a tenu grâce à un Léon héroïque, sauvant un pénalty, multipliant les arrêts, tandis que Namasso a inscrit l'unique but de la rencontre. Et puis enfin, le choc attendu entre Marseille et Paris, qui a tenu toutes ses promesses d'intensité, en tout cas on pourra pas le nier. L'OM qui l'a emporté 1-0 grâce à un but assez rapide d'Aguerre qui met fin donc à 14 années d'invincibilité parisienne au Vélodrome, privé donc de nombreux joueurs. Les Parisiens ont dominé sans jamais trouver la faille. Une soirée paradoxale où la défaite a vite été éclipsée forcément par le couronnement de leur attaquant star Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. On va y revenir juste avant. On va parler très rapidement de cette journée de Ligue 1 avec potentiellement quelque chose qui pourrait être sympa à faire. C'était ton idée, Paulin. C'est nous donner un petit peu le joueur star pour nous de cette journée de Ligue 1, le joueur qui nous a le plus marqué.
Oui, complètement. Alors là, j'ai plutôt décidé de m'axer. Alors je vais en dire un, mais ça pourrait être, ils peuvent être deux. C'est du côté brestois que je suis allé chercher ça, parce que première victoire de la saison pour eux, très important. Et je peux autant le donner à Ludovic Ajor qui fait 1 but et 3 passes décisives, et la dernière pour Rémi Labo Lascari, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est exceptionnelle. Il fait un extérieur du pied, la passe fait 25 mètres, il trouve Rémi Labo Lascari qui vient inscrire le 4e but. Mais il y a aussi Romain Del Castillo, parce que en 15 minutes Del Castillo était injouable, donc il trouve une passe décisive pour Ludovic Ajor, et ensuite il met une enroulée du pied gauche hors de la surface. Donc moi voilà, mes joueurs, on va dire mon joueur, si je dois en dire qu'un, je vais dire Ludovic Ajor pour la belle performance, les 3 passes décisives et le but, et puis ce premier succès brestois 4-1 contre un OGC Nice qui patauge un petit peu aussi en ce début de saison.
Oui, c'était assez prévisible hein, ce début de saison de l'OGC Nice. En tout cas, pour toi, il fallait se brancher clairement Brest ce week-end. Voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner face au SCO. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un Ludovic Ajorc moins en forme,
Del Castillo et Ludovic Ajorc, s'ils pouvaient garder, on va dire, si justement les stats qu'ils ont fait contre Nice, et
compter pour le match.
Ça peut être assez suffisant pour eux, et qu'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin d'en planter d'autres, ça nous arrangerait pour samedi.
Fortement. Dimanche. Et toi, Paul, de ton côté, quel joueur t'as le plus marqué sur cette journée de Ligue 1?
Alors moi, c'est Emmanuel Emega, qui vient répondre au COP de Strasbourg après de nombreux chahutements ces dernières semaines, où où certains supporters se plaignaient de son implication, et il répond par la meilleure des façons avec une passe d'un but et en montrant son maillot à la fin. J'ai envie de dire que c'est une réponse, bah, comme je l'ai dit, parfaite, et je pense que ça va peut-être enfin lancer sa saison avec Strasbourg, et surtout ça fait du bien de voir des joueurs qui sont impliqués pour leur club et qui le prouvent par des actions comme ça.
Des actions qui marchent, puisque désormais Strasbourg occupe la quatrième place à égalité de points avec tous les autres co-leaders de Ligue 1. Faustin, de ton côté, qui est-ce que tu choisirais ?
Moi j'irais sur Rouli, le gardien de l'OM, qui pour une victoire historique a fait un excellent match, qui a sauvé Marseille à plusieurs reprises avec des belles parades. Donc ouais, surtout pour le contexte de la victoire, évidemment un classique, 14 années que l'OM n'en avait pas gagné, et je pense que c'est peut-être lui l'homme du match de cette rencontre.
Ouais, Rouli qui, bah, pareil, qui fait un début de saison assez impressionnant, hein, franchement.
Homme Real, du match. Le Real devait être excellent aussi.
Ouais, également homme du match Olympico aussi. Donc clairement, on est sur un gros début de saison encore de la part de Jeronimo Rouli. Et toi, Cédric, de ton côté, est-ce que t'as pu identifier un joueur ?
La pluie.
Le préfet.
Non, le préfet a très bien pris la très bonne décision.
Bien fait,
ouais. Non, bah après j'ai pas trop suivi les matchs ce week-end. Je t'avoue, j'étais plus concentré sur le peu d'athlétisme qui restait. Puis bon, j'avais d'autres à côté. Je fais un big up à un ami qui a organisé un week-end de marathon caritatif de speedrun. Donc j'étais plus côté e-sport ce week-end. Donc après voilà, le seul truc voilà que j'ai vu un petit peu, c'est le match de hier soir. Pas trouvé non plus exceptionnel.
Après, Aguerd apparemment était très bon, au-delà de marquer.
Ouais, mais après, enfin si tu veux, pour moi ce match-là, il est tronqué avec le fait que Marseille a joué avec le règlement, qui était tout à fait leur droit. Mais bon, je pense que déjà, ça aurait été cool qu'ils jouent ce soir, comme ça à 20h, on aurait eu un match à commenter en direct. Et puis je pense que ça aurait été mieux aussi.
Il fallait envoyer un mail.
Mais il fallait...
Pablo Longoria, tu t'as pas ça dans tes contacts, Cédric ?
Mais Pablo, il a pas voulu accepter le deal. Il a pas voulu accepter le deal de 15h, il a pas voulu le deal de 17h, il a pas... C'est le mardi, écoute... Non mais du coup, enfin, je trouve que ça y a joué aussi sur le match. Hein. Après, y a rien à dire. Hein. Les Marseillais, une fois qu'ils ont marqué au bout de 5 minutes, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Ils ont bétonné, ils ont tenu. Ils ont quand même eu chaud. Donc, tu vois, si je devais retenir quelque chose, c'est quand même du coup, ouais, la mentalité qu'a eu l'équipe de Marseille sur ce classico.
Moi personnellement, je vais le donner. Ça n'étonnera personne. C'est Kendry Paz de mon côté qui, pour le coup, a pas fait. Forcément, je suis très content de le voir marquer son premier but en Ligue 1. Et puis ouais, c'est vrai qu'il a pas fait un match non plus flamboyant. En tout cas, il a loupé énormément de choses. Mais pour la symbolique, premier but en Ligue 1, futur grand joueur.
Du côté de Chelsea,
exactement,
avec son ami Emega et sûrement d'autres de l'équipe de Strasbourg,
Enciso aussi. Voilà, on verra, mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir performer en Ligue 1. Donc forcément, je l'ai mis dans mes joueurs. On part en pause musicale, Faustin.
Ouais, moi j'aimerais bien dire quand même que pour le PSG, c'est un peu le dernier truc qui manque sous l'ère Qatari, c'est ce victoire de ce record d'invincibilité en Ligue 1, qui est toujours pas tombé, qui appartient toujours au FC Nantes. C'est 32 ça, victoires, c'est bon. Il me semble. Je pense que c'est vraiment ce qui manque encore pour avoir une ère Qatari vraiment complète et aboutie de A à Z.
Et malgré le fait qu'on soit en juin, on est quand même très content que ce record ne tombe pas. Voilà, faire un petit clin d'œil à nos anciens de temps en temps, ça fait pas de mal.
On passe à la pause musicale du coup. Je vais te faire plaisir.
Allez.
Je sais que t'es à l'animation ce soir. On va écouter du FM Togo avec Madame Riffo. C'est parti tout de suite sur le 101.5 FM.
Dehors sous Stoli, moustachu à la Vova. Je rêve pas du top 10, je rêve pas de ma face chez Vevo. Pas très bavard, je laisse le moteur vrombir. Cherche une planque là où y a pas de réceptionniste. Demi-lune perchée là-haut, pendant qu'elle dort dans les draps poisseux. Je regroupe ma cale de billets, je me prends pour un gros poisson. Je surveille pas ses danseuses, je surveille pas ses putes. Surveille le cours du Roro, mon pompe sous le canapé bute. Leur carrière elle pue la merde, on dirait c'est du gambling. Le FG pris zéro vacances, je les tords sur une chaise de camping. Donne-moi 2 balles tous les mois et je fais un sourire pour la vie. Marqué l'histoire, je m'en bats les couilles. Tant que mes poches vivent pas la famine. Indépendantiste à la mort, je l'ai prouvé maintes et maintes fois. J'ai besoin que d'électricité sur leur rond-point, je fais un tout droit. Vos contacts, je leur pisse dessus. Vos stratégies, je leur pisse dessus. J'ai que mes couilles et mon chlawa depuis l'époque où shit faisait pas de bulle. Je suis un enfant de la ZNO. Donner mon cul, c'est pas possible. Mental de Madeleine Riffo. Devant l'ennemi, jamais docile. Ces gros porcs se rongent les ongles parce que chez eux, j'ai pas signé. Je les vois comme des gros pointeurs au milieu d'une allée à Disney. Chaque jour, il y a des petits qui tombent à cause de leur discours de merde. FM, je rentre pas dans l'industrie qui sent la lèche, qui sent le sperme. J'avais 14 ans, je rêvais d'une paire de Red October. Sur le boulevard, j'ai plavonné, j'ai jamais parlé à un seul docteur. Je trouvais les réponses dans un flaky ou bien dans ma paire d'écouteurs. À l'époque, sincèrement, je pensais finir chauffeur dans un sprinter. Mental colonel Fabien, sur lequel j'hésite pas à shoot. Si la musique ça marche plus, je mets 900 kills dans un jumpy. Je rappe toujours pas dans les dents, ça fait suer mes détracteurs. Mon grand aère un peu ta chambre, dehors y'a du soleil et des fleurs. Chez moi y'a pas de bourreau, je les dévore tous un par un. Puis je rigane à teint par le courroux, je les laisse pourrir au moins un. Pour me refaire, je traîne pas au casin, j'investis sur de l'acier noble. Viens pas me faire le Don Chicho car t'as des casales sur ton os. La cétone c'est pas pour les jolies paluches de ma Bella. Je frottais ma peau au citron pour plus sentir l'odeur de ses lâches. L'autre il nous parle de misère, à 16 il avait des Margiela. Je dis pas que j'ai manqué d'un truc, mais je plavonnais dans les heures creuses. Je peux pas blairer ces actrices, le monde est moche et c'est acté. Donne-moi un taudis dans la creuse, ça fera sourire le monde qui avait de l'acné. Ça tend la main par intérêt, après ça joue les curateurs. Avec leur langue sur une cuvette, ils feront plus jamais les mots parleurs. Dans la bringue avec mes frères, je mets pas leur son sur le speaker. Je rigole sur ces goofies, pour exister ont besoin de parure. Me fatigue pas, je leur tords le cul, je rappe même pas, je le fais en parlant. Tellement baisé par leur maison de disque, leur son c'est comme un parlu.
On écoutait Femme Togo, Madame Riffo, sur le 101.5 FM Génération Sport. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sport de la grille de Radio G. Et on va continuer tout de suite en passant aux infos désormais nationales et internationales. Avec toi, Paul, on va parler de la Ligue des Champions.
Et oui, car mardi dernier marquait le retour de la Ligue des Champions, un peu plus de 3 mois après la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain en finale contre l'Inter Milan à Munich. Et du coup, on a commencé par l'OM qui s'est déplacé au Bernabéu face au Real de Madrid, soutenu par 4000 supporters marseillais. Après 20 minutes difficiles sauvées par Rulli, Wea a ouvert le score sur une occupation de Greenwood. Aubameyang a manqué le 2-0 avant que Mbappé n'égalise sur pénalty. En seconde période, l'OM a tenu le ballon avant que Carvajal a été expulsé avec un second pénalty de Mbappé qui offre la victoire 2-1 au Real Madrid. Malgré les efforts en fin de match, les Marseillais laissent filer un résultat qui semblait à leur portée. La soirée a été également marquée par un match fou à Turin où la Juventus a réussi à arracher le nul 4-4 face à Dortmund dans les dernières secondes. À Lisbonne, Karabakh a réalisé un véritable exploit en versant Benfica 3-2 après avoir mené 2-0. Arsenal s'est imposé sans trembler 2-0 à Bilbao, tandis que l'Union Saint-Gilloise a surpris le PSV Eindhoven en s'imposant 3-1. Enfin, Tottenham a décroché une courte mais précieuse victoire 1-0 contre Villarreal. Mercredi soir, le PSG faisait son entrée en lice en surclassant l'Atalanta 4-0 au Parc des Princes. Marquinhos a ouvert le score dès la 3e minute sur une passe de Fabian Ruiz avant que Kvaratskhelia ne double la mise d'un superbe geste à la 39e minute. Barcola a ensuite manqué un penalty, mais Nuno Mendes s'inscrit le 3e but dès la reprise de la seconde mi-temps, mettant Paris à l'abri. Gonçalo Ramos a scellé le triomphe dans le temps additionnel. Malgré les absences de Doué et Dembélé, les Parisiens ont dominé de bout en bout, offrant un spectacle de haut niveau. Seul regret, la blessure de João Neves, absent environ une semaine. Dans les autres matchs de cette soirée, Liverpool s'est imposé 3-2 sur le fil à Anfield grâce à un but de Van Dijk dans les dernières minutes. Le Bayern Munich a dominé Chelsea 3-1, porté par un doublé d'Harry Kane. Et enfin, l'Inter Milan s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, avec notamment un doublé d'un Frenchie, Marcus Thuram. Et pour finir, jeudi soir, Monaco a sombré face à Bruges, s'inclinant 4-1 en Belgique. Après un pénalty manqué par Marnes Akliouche à la 10e minute, les Monégasques ont encaissé 3 buts avant la pause. Tressoldi à la 32e, Ovedika à la 39e et Van Aken à la 42e. Diakon a ensuite aggravé le score à la 75e avant que Fatih ne sauve l'honneur à la 91e. Les largesses défensives de l'OSM, notamment en l'absence de Denis Zakaria, ont été criantes. Il faudra très vite se ressaisir pour espérer quelque chose dans les prochaines compétitions et les semaines qui suivent. Les matchs de jeudi ont offert un mélange de domination et de suspense. Francfort a largement battu Galatasaray 5-1, Manchester City a pris le dessus sur Naples 2-0 et Barcelone s'est imposé 2-1 à Newcastle. Copenhague et Leverkusen se sont quittés sur un match nul 2-2, tandis que le Sporting Portugal a largement dominé Kairat Almaty 4-1. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de cette semaine, mais moi, je me suis assez régalé devant ces matchs. Que ça soit, j'ai bien aimé le match de Liverpool à Anfield et même le match très solide, malgré la défaite de Marseille au Bernabéu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez.
Bah écoute, nous on a forcément été étonnés aussi du résultat de Marseille contre un Real. On en parlait aussi la semaine dernière. En tout cas dans nos pronostics, ça allait pas aussi bien se passer pour les Marseillais. Ils nous ont clairement étonnés en Ligue des Champions. Donc le seul côté négatif en tout cas de cette campagne de Ligue des Champions, de ce début de campagne, c'est forcément Monaco, hein, Paulin. Énorme surprise, même si on sait que Bruges c'est une équipe qui marche bien.
Ouais, c'est sûr. Après c'est vrai que par rapport à ce qu'est capable de proposer Bruges et son expérience aussi en Ligue des Champions à domicile, Bruges c'est toujours une équipe qui fonctionne assez bien devant son public. Monaco s'est laissé surprendre. Si Akliouche marque son penalty, c'est sûrement pas le même match, mais c'est vrai que dans la capacité de jouer côté Bruges, c'était assez intéressant. On a Christos Tsolis qui est hyper intéressant, mais ils ont des joueurs de talent. Hein. Van Aken, c'est quand même un joueur d'expérience maintenant assez accompli sur la scène du football mondial. Donc Monaco, comme tu l'as dit, Paul, faudra se relever. La 4-1, c'est assez sévère quand même. Donc ça reste un résultat compliqué, je pense, pour les Monégasques. On verra par la suite, mais bon, il va falloir trouver des solutions de la part d'Adi Hütter.
Oui, c'est plus dur dans la symbolique que dans le score, même si c'est vrai que 4-1 à Bruges, ça fait mal en tout cas à lire. Et puis sinon, on a Paris, hein, forcément, qui a, comme t'as dit, Paul, marché, entre guillemets, sur l'Atalanta, qui a vraiment réussi à faire fonctionner son jeu. Donc ça fait plaisir quand même de retrouver ces Parisiens qui fonctionnent. Concrètement, c'était un petit peu le questionnement avec une équipe qui a pas eu forcément de préparation, qui a perdu une finale aussi en Coupe du Monde des clubs, même si c'est plus anecdotique que vraiment important. Mais quand même, Faustin, c'est bien de retrouver Paris à ce niveau-là.
Ouais, clairement. Et puis des performances de joueurs qu'on attend cette saison. Kvaratskhelia qui met un très très beau but après avoir percuté une belle frappe en dehors de la surface. Et puis même on a revu ce collectif impactant, dominateur, ce rouleau compresseur parisien qui a roulé sur l'Atalanta. Donc ouais, ça fait du bien de voir un match comme ça pour démarrer la campagne de Ligue des Champions.
Moi je sais pas vous, mais il y a un match quand même un peu old school, un peu de hipster qui m'a quand même fait kiffer, c'est quand même ce Juve Dortmund 4-4, hein, c'est quand même assez impressionnant, ouais. Mais ça fait plaisir quand même de savoir que la Juve, que Dortmund peuvent aujourd'hui se rencontrer en Ligue des Champions et nous proposer du football comme ça, c'est pas gagné.
Et puis c'était assez dingue comme scénario, hein. On était là 0-0 à la mi-temps, le commentateur du match était en train de dire qu'il était en train de s'ennuyer au possible. Fin de match.
Il a été entendu.
4 partout.
Il est resté.
D'accord, excusez-moi, hein, pardon. Nous, on était forcément devant ce Real Madrid-Marseille qui nous intéressait aussi pour voir la prestation des Marseillais. Mais en tout cas, moi, je me dis que je suis passé à côté d'un match qui avait l'air assez fou en deuxième mi-temps. 4 buts partout. Du Vlahovic, du Yildiz, du Adeyemi, du Guirassy pour Dortmund. Non, franchement, c'est allé dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, un retour de la Ligue des Champions comme on l'aime, hein, finalement.
Une grande pompe.
C'est exactement ça. Et puis après, nous, on a pu voir aussi notre Barça s'imposer sur la pelouse de Saint James Park. Pas facile, hein. Franchement. Merci à Marcus Rashford, merci à ce joueur qui connaît très bien les pelouses anglaises et qui les a côtoyées avec Manchester United, qui marquait d'ailleurs beaucoup avec United contre Newcastle. Et il a continué encore avec franchement un très beau match de sa part. Ouais. Ça nous fait plaisir. Un match aussi monstrueux de Pedri. Hein.
Ben Pedri,
je ne sais pas si en tout cas dans
la
les votants du Ballon d'Or, c'est une question que je me pose. Est-ce que il regarde le football? Est-ce qu'il regarde tous les matchs du FC Barcelone? C'est vrai que là du coup je te fais la transition, on va dire, toute trouvée pour parler de ce Ballon d'Or là, mais juste par rapport au fait que Pedri finit à la 11e place. Au-delà du fait que, d'accord, il faut prendre en compte les résultats, les trophées, etc. Je veux dire, le Barça gagne la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi, le championnat, demi-finaliste de Ligue des Champions. Et Pedri, pour moi, enfin, au-delà des statistiques, parce qu'on ne peut pas tout ramener aux statistiques, forcément, Pedri, il n'a pas fait une saison à 20 buts, 20 passes décisives.
Non.
Mais, par contre, c'est peut-être le joueur en Europe qui a reçu le plus de trophées d'homme du match, que ce soit toute compétition confondue, en Liga et en Ligue des Champions, au total. Et le trouver hors de ce top 10-là, il y a des noms dans le top 10. Pour moi, déjà, Pedri, je le mettais troisième. Alors, on peut me parler...
J'étais d'accord avec toi. Pour moi, on en avait discuté, c'était le joueur du Barça, peut-être, que je trouvais le plus impactant.
Et en tout, j'avais essayé de faire un classement objectif, et je mettais Dembélé en 1, je mettais Vitinha en 2 et Pedri en 3. Pour moi, Lamine Yamal et Rafinha, au-delà du fait que Lamine Yamal est un joueur extraordinaire et que Rafinha ait fait une saison fantastique... Ouais. Pedri, c'était l'élément clé de ce Barça, et en tout cas devant les matchs, je veux dire, c'est le football à l'état pur, et de toute façon ça vient à nous reposer la question aussi sur ce classement du Ballon d'Or, comment il est effectué, le fait de prendre en compte certaines fois trop les statistiques. Kylian Mbappé 7e, il est dans le top 10, ok, est-ce que le Real a gagné quelque chose la saison dernière? Non, à aucun moment il doit se situer devant Pedri, à aucun moment il doit se situer tout simplement devant des joueurs comme João Neves. En fait, moi il y a l'homme plein de choses aussi. Et oui,
parce que surtout qu'il a eu une période cette saison, je crois, où il pendant
Cole Palmer, sur 3 mois, c'est 3 buts et une passe décisive sur 3 mois en première ligue.
C'est un joueur à vocation offensive là pour le coup.
Là, on est vraiment sur un joueur qui portait son équipe la saison d'avant avec Chelsea, qui a été exceptionnel début de saison. Il continue sur sa lancée. Ouais. Et la saison dernière, avant dernière, du coup, il était monstrueux pour le coup. Il est quasiment top buteur de la première ligue. Là, c'était sensationnel. Là, le problème, et ce qui me dérange, c'est que il met un doublé en finale de Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. Il fait un match exceptionnel. Il y a rien à dire sur le match. Il gagne la Conference League en finale. Il fait 2 passes D. Ok.
C'est le seul match qu'il joue en plus en Conference League, je crois, la finale.
Je crois qu'il joue la demi-finale et la finale. En tout cas, il a été rajouté en phase finale. Ouais. Alors je me demande si c'est pour le dernier carré, c'est possible. Mais c'est sûr qu'il a pas fait que la finale. Mais en tous les cas, je veux dire là. Enlève ça, Palmer, il est pas dans les 30. Donc c'est évident que tu dois prendre aussi en compte ce genre de performance d'un joueur. Alors très bien, le doublé en finale de la Coupe du Monde des clubs, d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi relativiser et se poser des questions sur ce que tu évalues et ce que tu notes quand tu fais un classement du Ballon d'Or. Ou alors, dans ces cas-là, ne fais pas de classement. Fais à la limite un top 3 des meilleurs joueurs de la saison, donne ton Ballon d'Or et ok. Mais là, il y a tellement de choses frustrantes.
Ça crée des polémiques, ouais, c'est clair.
Pour nous, en tout cas, qui sommes fans de foot et qui, en tout cas, moi, quand j'essaye de parler, j'estime avoir regardé un petit peu les matchs du FC Barcelone, les matchs du PSG, et j'ai l'impression, en tout cas, moi, ce que ça me donne, vous allez me dire ce que vous en pensez, par exemple, j'ai l'impression qu'ils seraient pas capables de mettre 8 joueurs du Paris Saint-Germain à la suite. Il faut de la variété. Alors que pour moi, dans ton top 10, tu mets que des joueurs du PSG et ou quelques joueurs du Barça, c'est une logique, c'est bien, en fait, finalement. Oui, parce que le trophée, donc le Ballon d'Or, c'est Dembélé qui l'a, il n'y a aucun souci. Et finalement, ça vient récompenser la saison exceptionnelle et magnifique du PSG.
C'est
le collectif.
C'est ce qu'il avait dit de toute façon, Dembélé, en interview.
Tout à fait.
Pas de concentration sur le Ballon d'Or, c'est vraiment juste moi je joue pour mon club.
Et il le dit même dans son discours, finalement. Il le dit que ce Ballon d'Or, c'était pas forcément son objectif, mais qu'il le doit aussi à ses coéquipiers. Il a tellement raison.
Il a tellement raison.
Il le doit à Pacho, il le doit à Neves, il le doit à Ruiz, à Vitinha. Enfin, en fait, tout ce collectif du PSG, pour moi, c'est ça le Ballon d'Or, en fait. Ils ont été monstrueux. Ils ont gagné quasiment de près ou de loin. C'est le PSG sur toutes les récompenses. Il y a juste le trophée Copa où c'est Yamal, mais c'est Doué qui est deuxième. Sinon, ça. C'est vraiment la saison est historique pour le PSG et c'est magnifique, mais forcément dans les positionnements et dans ce classement, il y a évidemment des choses qui nous font parler.
Et moi, je pense que plus largement, ça questionne quand même quant à la place des milieux de terrain au Ballon d'Or. Oui. Parce que ok, on a eu Modric qui a été Ballon d'Or et ça, c'était en vrai tout à fait logique.
Rodri
l'année dernière aussi, c'est vrai, mais c'est des joueurs qui ont une exposition plus grande qu'un joueur plus lambda. Mais là, quand on voit le classement, par exemple, de Fabián Ruiz qui fait 24e. 24e Fabián Ruiz. Enfin, en plus, on parle clairement on parlait de Rafinha. Fabián Ruiz, c'est un MIP aussi. Hein.
Ouais. Donc, Fabián est exceptionnel. Fabián est sous-côté. c'est ce que je voulais faire. J'ai pas eu le temps de le faire avant l'émission. Je voulais regarder combien il y avait de joueurs offensifs sur ces 30 joueurs. Voir combien de joueurs. Je pense qu'il y en a au moins 20. Je pense qu'il y a 20 joueurs offensifs au moins 15.
Je peux te les calculer si tu veux.
en pas offensif plutôt, comptons les pas offensifs.
Oui, c'est vrai.
En pas offensif, t'as Hakimi, ça fait 1.
Nuno Mendes.
Donnarumma, Vitinha, Nuno Mendes, j'ai perdu mon classement. Donc t'as Hakimi aussi, je l'ai dit.
Ouais.
T'as McTominay, Neves.
C'est milieu.
Ouais, mais on parle d'offensive.
Ah oui, enfin oui, ok.
McAllister, on le compte du coup comme un milieu aussi, j'imagine.
Ouais.
Ouais, parce qu'il joue plutôt
recul. Bellingham, Ruiz.
Bellingham, c'est peut-être un peu plus offensif pour le coup.
Ouais, là, la saison dernière, c'était en 4-3-3.
Oui, mais enfin, même Bellingham, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas.
Pardon,
mais il est 16e. Et Bellingham, dans les 30, enfin, à un moment donné, on va.
Il a fait 6 mois intéressant.
Non, mais après, il a fait 2 mois. Il a fait que septembre, octobre. Après, on l'a plus vu.
Non, mais après, il est présent en Ligue des Champions. Il met 8 buts au total en Ligue des Champions. D'accord, mais 16e, jamais. Ouais, jamais 16e, jamais.
Michael Louis est 30e.
Ouais, voilà. C'est
mais après, c'est ce que je regardais. C'est vrai que, globalement, de ce que j'ai compris, les votants, en fait, donnent leur vote pour 10 joueurs. Donc, le top 10, ils donnent les points pour 10 joueurs. Et derrière, en fait, ça vient de la 10e à la 30e place, limite. En fait, le classement, c'est comme si on devait pas en tenir compte. C'est les 10 joueurs en fait qui sont pour lesquels il y a des votes, c'est ça du coup qui est intéressant. Donc pour moi, soit vous votez pour les 30, soit vous votez pour les 10. Auquel cas, faisons un top 10 du Ballon d'Or où on a vraiment voté, on a réfléchi. Mais c'est vrai que là où moi je me posais la question sur la question toute simple de se dire qui est le meilleur joueur de l'histoire du foot et qui est le meilleur joueur du monde, on répond souvent Lionel Messi, et ce qui est normal parce que c'est un extraterrestre. Mais c'est vrai que on a toujours l'impression que les milieux de terrain, les défenseurs, les gardiens sont mis au second plan parce qu'on a cette idée du foot, cette idée des finisseurs, cette idée de celui qui marque, qui fait gagner son équipe. Et finalement, ça vient à se poser la question, pourquoi ne pas dire, par exemple, aujourd'hui qu'un Vitinha est le meilleur joueur du monde, qu'un Pedri est le meilleur joueur du monde, et qu'en fait, c'est très subjectif. Et c'est surtout que, moi, je dirais, il faut plutôt parler sur des plans, quoi. Le meilleur offensif du monde, c'est un tel, le meilleur milieu du monde, c'est un tel, le meilleur défenseur du monde, c'est un tel. C'est très difficile de venir dire après qui est le meilleur joueur.
C'est pour ça que le trophée Yashin a été créé aussi, parce que jamais les gardiens, enfin si du coup une fois les gardiens ont été récompensés, mais ça aurait été tellement rare.
Pas sûr pour le Ballon d'Or.
Si c'est Yashin,
qui l'a gagné. Mais oui, du coup c'est pour ça qu'il a été créé, parce que sinon ça aurait été extrêmement rare de voir un gardien récupérer un Ballon d'Or, alors qu'il y a des gardiens qui sortent des performances exceptionnelles. Mais pareil, ça fait gagner son équipe, mais c'est pas l'image qu'on va retenir d'un mec qui met un but, qui va célébrer avec les supporters ou avec tout le banc qui lui court dessus. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que ce trophée a été créé, que on met évidemment plus de lumière sur les offensifs.
Mais c'est clairement du marketing, hein. Ça c'est assez évident. Mais du coup, j'ai fini de compter. Si on compte pas Florian Wirtz et Michael Olise, qui sont quand même des joueurs plutôt très offensifs, on est à 12.
Ouais, 12.
12 et joueurs non offensifs.
Oui, c'est pour ça, c'est 18 offensifs. 18 offensifs, et encore sur les 12, tu vois, si tu mets un McTominay qui a quand même joué beaucoup plus avancé du côté de Naples, qui était un peu dans ce poste de meneur de jeu.
Même Fabien Ruiz qui finit beaucoup d'actions quand même en Ligue des Champions et des moments importants où il marque.
C'est ça, et c'est vrai que c'est ça qui est gênant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Pacho n'est pas dans les 30. Pacho, mais il est monstrueux toute la saison avec le PSG.
Peut-être le meilleur central aujourd'hui. Hein.
Mais oui, et puis sur la saison dernière, c'est peut-être le meilleur central du monde. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, c'est des choses qui... En fait, on pourrait en parler des heures tellement c'est pas cohérent. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tout le monde, j'ai l'impression, enfin, beaucoup de personnes se tuent à le dire, mais comment des professionnels et les votants, finalement, ils n'arrivent pas à avoir les vrais 30 meilleurs joueurs ou le vrai top 10 des meilleurs joueurs du monde, de la planète, quoi, tout simplement.
Et déjà, ça s'explique par exemple, la Ligue 1 n'est pas forcément diffusée, tu vois, partout dans le monde. Par contre, le championnat espagnol, anglais... quasiment partout dans le monde, t'arrives à le voir.
Ouais, mais les votants devraient être quand même en capacité de enfin, à un moment donné, tu votes, tu vois les joueurs, quoi.
Faudrait faire la même chose que.
Ils prennent un quota
finalement.
Par pays, de tant de journalistes.
Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est par pays, oui, c'est
et
sûr.
Et après, normalement, il y a 3 critères qui sont normalement indépendants des stats. Mais bon, ça, de toute façon. Votes en ton âme et conscience à chaque fois.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pour ça que ça pose des questions sur tout ce qui se passe et comment ça finit, quoi. Enfin, de toute façon, voilà, il y a des places qui, peu importe, dans 10 ans, ce sera pareil. On sera jamais d'accord. Finalement, c'est quasiment impossible qu'on soit d'accord à 100% avec le top 10. Après, c'est le résultat qui compte.
Un peu de logique quand même. Ça, oui. Dans tous les cas, faut un peu une balance juste.
C'est, et c'est ça, mais dans tous les cas, là, en soi, Dembélé, Ballon d'Or, donc voilà, il y a rien à dire. C'est mérité. Mais moi, j'ai envie de dire, tu mettais Dembélé, Hakimi ou Vitinha, je l'aurais pas bronché. Enfin, mérité dans tous les cas, parce que tu mets un joueur du PSG, parce que c'est la meilleure équipe du monde, en fait, puisque, ok, Chelsea, dans la Coupe du Monde des clubs, mais à un moment donné, stop. Enfin, je veux dire, c'est le PSG, voilà, ils ont fait le football, juste quand t'allumais ta télé, tu regardais le PSG, t'es pas fan du PSG, juste tu prends du plaisir, et c'est ça qui est dingue, quoi.
Puis tu sais, quand tu vois cette équipe jouer, que c'est la meilleure équipe du monde, tout simplement, aussi. Je vais quand même, avant de passer aux autres sports, je vais quand même remettre un petit peu le palmarès complet de cette édition avec le prix Socrates pour commencer, qui a été donné donc à la fondation Chana de Luis Enrique. Le club de l'année, c'est Paris, bien sûr, qui a gagné, mais aussi Arsenal du côté des féminines qui ont fait une énorme saison, hein, Ligue des Champions. Ils ont éliminé l'OL, battu le Barça en finale. Au niveau du trophée Gerd Müller, donc qui récompense le meilleur buteur pour les masculins, c'est bien sûr Victor Gyökeres, désormais Arsenal, mais qui a fait la plupart de sa saison au niveau du Sporting. Et puis Eva Pajor du FC Barcelone, l'ancienne joueuse de Wolfsburg notamment. Au niveau du trophée Yashin, donc c'est Donnarumma, on l'a dit, qui a gagné pour sa saison au PSG, lui qui est désormais à Manchester City. Du côté des féminines, c'est Anna Hampton de Chelsea qui le gagne, sans doute grâce aussi en grande partie à l'Euro. Forcément battu, enfin gagné en tout cas devant les Espagnols qui étaient les grandissimes favorites. Au niveau du trophée Cruyff du meilleur entraîneur, c'est Luis Enrique qui l'a, qui ne comptait d'ailleurs pas venir le chercher, même si le match n'était pas reporté. Donc ça, c'est quand même un truc à notifier aussi.
Ouais, il a toujours dit qu'il était contre les
trophées individuels. Et honnêtement, c'est pas plus mal, je trouve. Ça véhicule une assez belle image quand même dans ce sport qui est le football. Sarianna Wiegman du côté des féminines, meilleur entraîneur, donc la sélectionneuse de l'Angleterre. Pour le trophée Copa, on l'a dit, c'est Yamal du côté des masculins. Vicky Lopez du côté des féminines, donc deux du Barça. Hein, la Masia a toujours des beaux jours devant elle. Et puis au niveau du Ballon d'Or, bien sûr, Ousmane Dembélé pour les masculins. Ça, on est très content, forcément, on le dit avec le sourire. Et puis Aitana Bonmati du côté du FC Barcelone, le troisième donc pour la joueuse espagnole. On va passer à l'athlétisme désormais, Paul.
Et oui, car tout à fait, les mondiaux d'athlétisme à Tokyo se sont clôturés ce dimanche. Du côté français, Jimmy Gressier s'est illustré en portant l'or sur le 10 000 mètres et le bronze sur le 5 000 mètres, confirmant son statut de référence du demi-fond mondial. Ses compatriotes Yann Schrub et Étienne Daguinos ont également brillé et montré que le demi-fond français progresse en terminant respectivement 9e et 15e du 5 000 mètres. L'équipe de France a pris 16 places de finaliste dans ces mondiaux, soit elle a fini 16 fois à l'une des 8 premières places d'une finale. Un bilan encourageant mais pas suffisant lorsqu'on constate que la France est 17e au classement des médailles et s'intercale entre l'Équateur et la Tanzanie au tableau des médailles. À l'international, les performances ont été spectaculaires. Noah Elias aux États-Unis a remporté le 100 mètres masculin en 9 secondes 78. Sydney McLaughlin Levron a établi un nouveau record du monde sur 400 mètres féminin avec 47 secondes 78. Et Emmanuel Wanyoni du Kenya a explosé le record du monde du 800 mètres en 1 minute 41 86. 41 secondes. Ces exploits montrent que le niveau mondial reste extrêmement relevé et que les records continuent de tomber. La France a encore des marges de progression, notamment dans les courses de sprint et les épreuves techniques, mais le demi-fond et la marche restent des secteurs très solides. Ces championnats donnent donc un aperçu prometteur pour les prochains rendez-vous internationaux, notamment les Jeux Olympiques de 2028 à venir.
On reprend le ballon désormais, on va du côté du volley.
Et oui, car tout à fait, l'équipe de France de volley, championne olympique en titre, a vécu un véritable cauchemar au championnat du monde 2025 en Philippines. Les Bleus ont été éliminés dès la phase de poule après deux défaites au tie-break, d'abord contre la Finlande, puis contre l'Argentine dans un match décisif où la première place du groupe était en jeu. Cette élimination précoce est d'autant plus surprenante que l'équipe visait le seul titre majeur qui manquait à son palmarès. Les raisons de cet échec sont multiples, performance individuelle en dessous du niveau attendu, trop d'erreurs dans les moments clés et incapacité à conclure les premiers sets contre la Finlande et l'Argentine. Les cadres de l'équipe comme Erwin Gapet ou Benjamin Tonuti n'ont pas su faire la différence. Ce fiasco pourrait marquer la fin d'un cycle pour la génération dorée qui avait offert l'or olympique en 2021 et 2024. Je ne sais pas ce que tu en penses, Paulin, mais est-ce que c'est vraiment un fiasco ou est-ce que ça aurait pu être évitable ?
Non, bah c'est vrai que... Moi, en tout cas, dans les matchs, sachant que le volley reste une compétition que je suis quand c'est l'équipe de France finalement qui joue, et avec ce qu'ils nous ont montré aux Jeux Olympiques à Paris, c'était assez exceptionnel. Là, j'ai trouvé ça dommage, mais ouais, je les ai trouvés en manque de solutions. En fait, finalement, le match contre la Finlande, c'est de là le plus gros échec finalement, parce que l'Argentine reste une très belle nation de volley, et contre la Finlande, on les a vraiment sentis au début. Limite, ils avaient l'impression qu'ils allaient pouvoir revenir dans le match. qu'il n'y avait rien d'alarmant. Et finalement, ils se sont fait surprendre par des Finlandais très agressifs. Et contre l'Argentine, il y a un joueur qui m'a choqué parce que sur le terrain, il est assez petit, il paye pas de mine, mais c'est un passeur d'exception. C'est De Checo, il s'appelle. Il a distribué des galettes tout le match pour les Argentins. Finalement, eux, ils ont fait que finir sur les Français. Il y a eu... Voilà, nos cadres étaient pas forcément là. Le début de match de Trevor Klevenau contre l'Argentine est exceptionnel. Derrière, ça s'éteint un petit peu. Et puis, on a sur le tie-break, voilà, les premières balles de match qui arrivent pour les Argentins. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Mais tout le match, j'avais l'impression de me dire finalement que ça nous pendait au nez. En fait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas cette énergie, il n'y avait pas ce changement, ce retournement de situation. On se disait, bon, allez, là, ça y est, ils vont le faire. Même s'ils sont quand même revenus dans le match face aux Argentins, derrière, ça l'a pas fait. Mais on espère qu'avec le coach André Adjani, ça pourra se reconstruire et qu'on pourra essayer d'aller, encore une fois, chercher des titres, que ce soit des titres européens, des titres mondiaux, et être présent, évidemment, au JO de Los Angeles.
On voit bien la différence d'importance, en tout cas, pour les joueurs de volley entre les différentes compétitions, que ce soit les JO, pour le coup, où les Français ont plus ou moins toujours répondu présent, et puis cette Coupe du Monde, ou même le dernier Euro, hein, moi je m'en rappelle aussi, où la France n'avait pas été... à la hauteur, on va rester avec un ballon rond pour aller vers le petit ballon, la balle, avec toi, Paulin.
Bah écoute, oui, on va aller du côté de la balle jaune. J'ai envie de dire un festin droit pour Valentin Royer lors du tournoi d'Hangzhou en Chine, où il aura été impressionnant tout au long de la semaine. Méconnu des amateurs de tennis, ce Français est sûrement dans la meilleure période tennistique de sa vie et a failli s'adjuger son premier titre du circuit ATP. Mais après un super combat et deux tie-breaks disputés, il a échoué en finale face au spectaculaire Alexander Bublik, toujours aussi extraordinaire. En témoigne son ace sur deuxième balle pour obtenir le gain de la première manche. Valentin aura lui été irréprochable et époustouflant tout le tournoi, en écartant la tête de série numéro 1 du tournoi, le russe Andrei Rublev, puis la pépite américaine Lerner Tin, avant de gagner le bras de fer franco-français face à Coco Moutet en demi. Issu des qualifications, il aura réalisé le tournoi quasi parfait, dans un registre de jeu très propre, mais aussi très agressif, un coup droit lourd et une justesse côté revers. Il est simplement tombé en finale sur un virtuose du tennis, un artiste de la balle jaune, mais surtout un showman par excellence, parce que c'est vrai que Bublik, moi je pense que là, c'est même sûr, c'est la meilleure saison de sa carrière pour Alexander Bublik, le Kazakh, qui a été exceptionnel. Ceux qui regardent le tennis de manière, on va dire, plus globale, plus générale, on a pu le voir à Roland-Garros, il s'est fait sortir par Sinner, mais il avait été monstrueux. Il est dans la course pour le Masters de fin d'année, il est actuellement 12e, donc ça pourrait être une très belle récompense pour sa saison s'il arrivait à décrocher sa place. En tous les cas, j'ai envie de dire bravo à Valentin, et royez-moi, ou plutôt croyez-moi, il n'a pas fini de nous surprendre sur les cours de tennis, et il va intégrer le top 70 mondial, de quoi lui permettre une présence un peu plus accrue dans les tournois du circuit ATP. En attendant, là, il a donné rendez-vous d'ailleurs après un discours où il était tout ému. C'est vrai que c'était sa meilleure performance et le public asiatique a répondu présent, en tout cas pour supporter cette jeune pépite. Là, on se donne rendez-vous pour le retrouver du côté d'un challenger à Shanghai, et on espère que justement, circuit challenger, il pourra essayer d'aller chercher beaucoup plus de victoires et puis revenir sur le circuit ATP.
On va te faire confiance sur cette jeune pépite française, parce qu'on sait que ce que t'aimes regarder, c'est le tennis, mais je sais que t'aimes aussi beaucoup regarder la Première Ligue. Donc est-ce que tu vas pouvoir nous en parler?
Ouais, alors c'est vrai que j'avais fait ma chronique habituelle, mais je vais pas prendre autant de temps. Je vais juste revenir sur les gros matchs, on va dire, du week-end, et on va se balader quand même du côté de la Mersey, parce que sur le démarrage de cette cinquième journée de PL, ça commençait par le derby entre Liverpool et Everton, un match qu'on adore voir et forcément une ambiance toujours présente à Liverpool. Début de match, Liverpool qui commence très fort avec un super Ryan Gravenberch qui marque d'une reprise de volée incroyable. Derrière, c'est Hugo Ekitike, notre Français. C'est Hugo comment, Faustin? Je rigole. Mais
ouais,
bien joué, voilà, parfait pour le deuxième but. Derrière, Everton n'y est pas lors de cette première période, et malgré quelques bons passages de Jack Grealish, hein, je ne cesse de le répéter, mais c'est un joueur assez impressionnant et qui renaît un peu de ses cendres avec Everton.
Joueur du mois.
Tout à fait, joueur du mois, exactement. Illiman Ndia aussi qui a essayé d'apporter des choses. Everton n'y arrive pas en première période, mais derrière revient très bien en deuxième, inscrit un but d'une superbe reprise de Gana Gueye. Derrière, ils auront poussé, mais on a senti aussi une faiblesse du côté de Liverpool. J'ai l'impression qu'on le voit souvent sur ce début de saison. On a pu le voir aussi face à l'Atlético. Un Liverpool très fort sur les 20-30 premières minutes d'un match, et derrière, ben en fait, ça se relâche tout simplement. On l'a vu face à l'Atlético 2-2. Ça avait été le cas aussi face à Bournemouth, face à Newcastle. Vraiment, c'est un petit peu un début de saison Liverpool qui tourne autour de ça. Une très bonne entame de match. Ils arrivent à marquer assez rapidement et derrière, ça se relâche. Et donc, score final toujours 2-1. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que dans des gros chocs, Liverpool pourrait se faire surprendre. Et puis, je vais aller du coup sur l'autre gros match. Alors, il y avait aussi un Chelsea United. Donc, pour faire rapide, c'était un match assez dingue. Carton rouge à la 5e minute pour le gardien Robert Sanchez. Derrière un Maresca qui nous fait des choix de coaching assez douteux. Hein. C'est peut-être une des pires performances en termes de coaching qui m'ait été donné de voir pour du football anglais. Il décide de sortir deux de ses offensifs. Pourquoi pas? Sauf que t'encaisses un but directement 3 minutes après. Derrière, Cole Palmer se blesse. Ça veut dire que t'as plus que Joao Pedro en seul attaquant sur le terrain. Compliqué. Et pour couronner tout ça, Casemiro, il prend un rouge avant la mi-temps. Ça veut dire que t'es à 10 contre 10, mais t'as plus qu'un attaquant sur le terrain. Dommage, du coup, pour revenir. Il avait plus que deux changements, donc il a essayé de lancer ses deux attaquants, notamment Tyrick George, mais ça n'a pas suffi. Chelsea donc s'incline 2-1, et j'ai envie de dire bonne nouvelle pour Manchester United qui trouve un peu de succès aussi en Premier League, ça fait toujours plaisir. Et puis on va aller du côté de l'Emirates Stadium avec un super match entre Arsenal et City, super match sur le papier du moins, parce que malgré le superbe but d'Erling Haaland emmené par cette contre-attaque de Tijani Reinders, derrière Pep Guardiola s'est réinventé et nous a posé le bus face à un Arsenal qui dominait. Il s'est dit qu'il allait se contenter de ce petit 1-0. Malheureusement, Martinelli en a décidé autrement. Il a mis un somptueux but permettant à Arsenal d'égaliser. En tout cas, voilà. Bon, là, c'était un rapide récap du foot anglais, mais j'essaierai de vous faire une chronique un peu plus détaillée dans deux semaines. Après mon passage moi-même sur les pelouses anglaises, je vais aller voir un petit Everton-West Ham, puis Manchester United contre Sunderland. Donc, j'essaierai de vous raconter un petit peu ces ambiances anglaises quand on est sur le terrain, on va dire.
On a hâte de voir ça. J'espère que tu reviendras avec l'odeur d'Old Trafford. mais pas un maillot de Ligue Europa de Manchester United de l'année dernière, s'il te plaît.
Ah, les bons souvenirs.
Surtout pas.
Voilà, je pourrais en faire des cauchemars. Et on va faire l'impasse aussi, forcément, sur les championnats du monde de cyclisme. Juste pour vous dire que demain, de 12h30 à 17h, pardon, c'est le contre-la-montre par équipe relais mixte, avec notamment, donc, pour l'équipe de France, Bruno Armirail, Paul Sexas, Pavel Sivakov, Cédrine Kerbol, Juliette Labou, et puis Maëva Skiban. Et sinon, le prochain rendez-vous en cyclisme, c'est forcément samedi 27 septembre avec la course en ligne des femmes, et puis dimanche avec la course en ligne des hommes, sur lesquels on reviendra mardi prochain. Avant de se quitter, on va juste faire un état des lieux.